Ovior.
Fjord.
Ovior.
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 Ovior. Ovior.
Qu'est-ce que c'est ? Une série de podcasts proposés par Les Pages Vior. Dans cette série, nous vous parlerons du cycle de l'eau en nous appuyant sur un territoire bien particulier, celui du bassin versant du Vior. Le Vior est une rivière de 163 km qui circule en Aveyron, dans le Tarn et dans le Tarn-et-Garonne.
Dans cet épisode, nous parlerons de la qualité et des usages de l'eau. L'eau est une ressource précieuse et commune qui nous sert de bien des manières suivant notre profession et nos activités. L'agriculteur a besoin d'eau pour arroser, mais aussi pour abreuver ses bêtes. L'industriel en a besoin de multiples façons suivant son secteur d'activité. Et l'habitant a besoin d'eau potable et d'une eau de baignade de qualité. Bref, nous prélevons et nous rejetons tous de l'eau dans les milieux naturels. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que cette eau est toujours la même. Nous rejetons dans une rivière, dans laquelle, plus en aval, d'autres prélèveront pour abreuver leurs animaux, produire de l'eau potable ou bien se baigner. C'est pourquoi il est si important de faire attention à ce que nous rejetons et de limiter au maximum notre impact.
On va descendre, on va aller à un endroit c'est un petit peu plus accessible.
Jean-Michel Chaudière de Les Pages Vior, que nous suivrons dans cet épisode, a pour mission de surveiller la qualité de l'eau sur le bassin versant du Vior.
Au début, quand j'étais nouveau à Les Pages Vior, je m'embêtais, je descendais, je passais sous la clôture, je m'accrochais à un arbre, je trempais la sonde. Et je me suis rendu compte qu'en fait, 50 mètres plus bas, il y a un accès direct au cours d'eau, on peut y aller à pied. Oh, petite grenouille.
L'objectif, acquérir de la connaissance sur ces milieux naturels et pouvoir proposer des programmes d'amélioration de la qualité de l'eau de la rivière à ses usagers. Ici, nous sommes en zone agricole. Les Pages Vior a donc tout un volet d'action, dénommé AgriVior, avec les agriculteurs. Les Pages Vior travaillent aussi avec les collectivités locales pour mettre en conformité l'assainissement non collectif des particuliers habitant dans des lieux isolés, non raccordés à l'assainissement collectif. Mais je ne vous en dis pas plus. Retrouvons Jean-Michel pour mieux comprendre le suivi physico-chimique réalisé par Les Pages Vior.
Allez. Donc le lézard qui va pas si mal que ça. Avant de tremper la sonde, on regarde toujours déjà, première chose, un aspect visuel. Est-ce qu'il y a de la mousse? Est-ce que l'eau elle est trouble? Est-ce qu'elle a une couleur particulière? Est-ce que le fond est colmaté? Bon, là, aujourd'hui, tout a l'air de bien aller, l'eau est claire. Il y en a quand même un petit peu, malgré la sécheresse. Il y a une petite grenouille, là, qui se promène au bord de l'eau. Donc tout ça, c'est plutôt pas mal. Et on va tremper la sonde. Hop. Et on va laisser se stabiliser la mesure. Le plus long stabilisé, c'est la température. Le potentiel d'oxydoréduction, plus il est élevé, meilleure est la qualité de l'eau. Un potentiel d'oxydoréduction qui serait proche de zéro ou négatif, ça voudrait dire qu'on a une eau très polluée. Là, on est entre 150 et 200 en général, donc on est bon sur le lézard. Le pH, on est à 6,8. C'est assez curieux parce qu'en général, on est plus élevé que ça sur le secteur. Ça peut être dû à la pression de l'assainissement au-dessus, à des intrants agricoles. Oxygène dissous dans l'eau, on est à 109%, très bien, une eau très oxygénée, pas de souci. Conductivité 200, une conductivité élevée, ça voudrait dire au-delà de 3, 4, 500, ça voudrait dire qu'on a vraiment beaucoup d'ions dissous dans l'eau, beaucoup de sel dissous dans l'eau, qui voudrait dire qu'on doit avoir des pollutions ou industrielles, agricoles, pareil, de la pression d'assainissement. Une conductivité basse, autour de 200, ça veut dire qu'on est proche des zones de source et qu'on est une eau qui n'est pas polluée. Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose qui est bon signe. Et attention, roulement de tambour, taux de nitrate excessivement bas, 3 mg par litre. Je suis le premier surpris, en général sur le lézard, cette partie-là, on est plutôt élevé. Il a peu plu ces jours-ci, donc il n'y a pas eu de lessivage des sols. On est un petit peu à l'écart des périodes d'épandage ou de fertilisation des sols. On est bon, on est vraiment très bon. Ce n'est pas le cas tout le temps, ce n'est pas le cas de tous les cours d'eau du bassin versant. Mais typiquement, un taux de nitrate à 3 mg par litre sur le laser au mois de juillet, c'est génial. Non, c'est cool là, voilà, je suis super content.
Ici, Jean-Michel vient tous les mois faire des mesures. Il vérifie les ASEC et fait un suivi de la qualité de l'eau. Il y a ainsi 34 points répartis de façon homogène sur tout le bassin du Viard. L'agence de l'eau a aussi un suivi sur une trentaine de points et un bureau d'études mandaté par les pages Viard pour 16 points complémentaires. En tout, 80 points de mesure permanents à l'échelle du bassin versant du Viard.
Et en plus, on a un suivi spécifique au nitrate sur une cinquantaine de points sur des sous-bassins versants ciblés chaque année. L'année dernière, on était dans ce coin-là, sur le Lézère. Cette année, on fait un suivi spécifique nitrate sur le sous-bassin versant du Candour, donc dans la partie tarnaise du bassin versant du Viard, et le sous-bassin versant Cône-Conilloux dans la région de la Selve du Rhin. Des 10 mg par litre, on a déjà des impacts significatifs sur la vie aquatique, sur les invertébrés, sur les espèces patrimoniales, notamment la truite, l'écrevisse à pattes blanches, la moule perlière, qu'on a encore dans certains de nos cours d'eau ici et qui est déjà impactée à partir de 5 mg par litre de nitrate.
Et voilà des marcheurs.
Et voilà des marcheurs. Je vous en prie, allez-y, allez-y. Bonjour.
Bonjour.
Il y a tout un tas de choses qui sont vraiment dépendantes des micro-sous-bassins versants qu'on a. Le sous-bassin versant du Lézère amont, il va être différent du sous-bassin versant du Jaoul, par exemple, qu'on a à côté. Parce qu'on ne va pas moissonner à la même période, parce qu'il a fait un orage sur le Jaoul, il ne l'a pas fait ici. Parce qu'ici, la terre, elle est un petit peu plus profonde que sur le Jaoul. Et c'est très très dur après de vraiment tirer des conclusions précises. Mais on a toujours des tendances de fond, elles, qui se confirment. Donc là, il y a deux cours d'eau qui confluent, un tout petit peu plus bas. Le ruisseau de Vaire et le ruisseau de Montroux. Donc on va aussi mesurer pour ces deux cours d'eau-là. Le plus dur, c'est de trouver un endroit où il y a assez d'eau pour pouvoir la tremper. On va dire que là, normalement, on doit être bon. Allez, c'est parti. Température de l'eau, 14,4. Allez. C'est bon. Du coup, le deuxième point de mesure qu'on fait sur le même lieu, là, c'est sur le ruisseau de Montroux. La sonde vient de révéler, alors ça fait annonce tonitruante, je ne sais pas comment dire, mais en tout cas, la qualité est bonne puisque la température est pareil aux alentours de 14 degrés, la conductivité est correcte, mais par contre, on a un taux de nitrate à 31,4 mg par litre. Donc là, il faut regarder s'il n'y a pas eu l'épisode de pluie justement qui aurait lessivé des parcelles qui sont à nu après les moissons. Ou un épandage peut-être un peu trop à proximité du cours d'eau, ou une pollution peut-être un petit peu plus systémique. Il faut qu'on regarde nous, dans nos données s'il est toujours élevé ou si c'est vraiment qu'un pic aujourd'hui un petit peu isolé. Là, on va l'analyser et si c'est toujours beaucoup plus élevé, c'est qu'il y a quelque chose d'un petit peu plus chronique. Et puis on ira essayer de voir et travailler avec les agriculteurs de façon sereine. Après, on télécharge ces données dans nos bases de données au bureau et on fait des comparatifs sur un an, sur 10 ans. On a des données qui datent des années 70 pour les plus anciennes. Alors, on en avait très peu, c'était pas nous, hein, c'était l'agence de l'eau à l'époque. Mais ça veut dire qu'on a des données sur très longtemps et on peut aujourd'hui comparer tout ça. On manque de temps et de moyens humains pour le faire. Mais en tout cas, la comparaison sur un an, sur un sous-bassin versant ou sur quelques années, ça on le fait pour voir aussi l'impact du travail des agriculteurs qu'on a pu faire ensemble, de l'amélioration des pratiques, on a vraiment un impact positif à l'échelle du bassin versant.
Les pages Viard mènent un vrai travail de chercheur. Son objectif, comprendre ce qui impacte la qualité de l'eau afin de l'améliorer. Mais selon les usages, d'autres analyses vont être nécessaires. Elles vont être réalisées par d'autres acteurs, comme les exploitants d'eau potable ou l'ARS. Arrêtons-nous quelques instants sur l'eau de baignade.
Donc le suivi de la qualité des eaux de baignade, là, qui est assuré par l'ARS, sur 23 points à l'échelle du bassin versant du Viard, où eux, ils vont typiquement aller chercher les paramètres qui font la conformité pour la baignade, qui sont les paramètres bactériologiques. c'est-à-dire la bactérie E. coli et la bactérie entérocoque. Il y a une troisième paramètre qu'on suit également à l'ARS, c'est les cyanobactéries, qui se développent plus tard en saison, notamment dans les cours d'eau et plus précisément dans les lacs. Et quand elles sont présentes en grand nombre, elles peuvent être potentiellement toxinogènes. Et c'est la présence de cette toxine que l'ARS va chercher. Et si cette toxine est présente, ils peuvent faire fermer la baignade tant que ça ne revient pas à la normale.
Petit zoom sur ces cyanobactéries dont vous avez certainement entendu parler cet été. Et si vous en avez entendu parler, c'est parce que leur présence pose un problème pour un usage de l'eau récréatif. C'est pourquoi les Pages Vior réalisent de nouvelles analyses depuis 2 ans. Écoutons Jean-Michel nous expliquer ce que sont les cyanobactéries benthiques.
C'est des biofilms bactériens de couleur brun verdâtre qui poussent sur les cailloux en fond de rivière. Ça fait des milliards d'années que ça existe, elles ont toujours été là, elles sont toujours là, elles sont même à l'origine de l'apparition de la vie sur Terre, celles qui ont produit l'oxygène au départ. Donc c'est grâce à elles qu'on est là aujourd'hui. Elles sont là, elles sont présentes dans le fond cours d'eau, mais certaines peuvent être toxinogènes. Et en fait, en fin de cycle, ce film bactérien sur les cailloux se décroche du caillou, surnage, flotte et va se poser sur le bord de la rivière. Si on l'ingère au moment où elle produit sa toxine, c'est pas sûr qu'elle produise, il y a des années elles n'en produisent pas. Mais si on ingère ce floc au moment où il a produit sa toxine, on peut être malade. Alors nous, volontairement, on ne va pas aller le manger. Mais typiquement, un jeune enfant qui va aller tremper sa main dans l'eau et puis manger le floc, ou un chien, parce que c'est appétant pour le chien, pourrait se trouver malade, ou pourrait même, pour un chien, ça arrive qu'on ait de la mortalité canine. Mais aussi pour le pêcheur s'il consomme le poisson, parce que le poisson vit à l'intérieur, et pour les animaux qui peuvent aller boire un peu plus bas, ou sur le lac, ou même dans le cours d'eau, qui est juste après la surverse au niveau du lac, parce qu'il va y avoir encore de la toxine à l'intérieur. Donc c'est pour ça qu'on commence à suivre. Ça, à l'échelle du bassin versant. C'est récent, ça fait 1 an ou 2 qu'on commence à suivre le sujet. Et on a la deuxième cyanobactérie, la planctonique, qui, elle, se développe dans les lacs et donc dans les eaux calmes, plutôt en fin de saison, plutôt quand les eaux commencent à monter en température. Et elle a besoin de phosphore pour se développer. Donc le phosphore, il est apporté, alors, encore une fois, par les épandages agricoles, les engrais, mais aussi beaucoup par l'assainissement. Et peut-être surtout par l'assainissement, notamment les lessives, qui apportent du phosphore dans l'eau. La cyanobactérie, elle est là, elle est prête à se développer. On met une goutte de phosphore dans l'eau, pouf, elle se décuple. Non mais c'est comme ça que ça se passe, elle attend que ça. Et on est en phase d'acquisition de données sur cette thématique-là, où on a installé un réseau de surveillance de cyanobactéries à plusieurs points clés, pour essayer de voir à quel moment elle se développe, à quel moment elle arrête de se développer, et quelles sont les causes, si c'est une cause plutôt météorologique, plutôt due à la pollution ou à d'autres facteurs qu'on n'a pas identifiés. On travaille normalement en bonne intelligence et en collaboration avec tous les services. Donc on a accès aux données de l'agence de l'eau, aux données de l'ARS, et eux, bien sûr, ont accès à nos données. Ça va dans les deux sens.
Nous sommes donc partis rencontrer l'un des partenaires de l'EPAGE Vior, l'ARS, l'Agence Régionale de Santé. Eux contrôlent 23 zones de baignade identifiées sur le bassin versant du Vior. 16 sont dans les lacs et 7 dans la rivière Vior. C'est sur ces lieux que vous avez des affichages avec le résultat des analyses effectuées. On vient de Boussac, on est avec Jean-Michel Chaudière pour faire les relevés. Et là, nous sommes où et vous êtes qui?
Alors, on est à l'ARS, la délégation départementale de l'ARS Occitanie, qui est située à Rodez. Et je suis technicien sanitaire en charge des eaux de loisirs sur le département. Les syndicats de rivière sont des interlocuteurs privilégiés sur le département et on essaie de travailler un maximum avec eux. C'est un bon appui pour le terrain, voilà. On a une mission d'inspection et de contrôle sur la qualité des eaux, et notamment des eaux de baignade. Alors notre travail à nous, c'est de contrôler que les zones de baignade soient propres à l'usage et que les gens qui s'y baignent le fassent en sécurité. Chaque baignade, on fait 4 prélèvements en cours de saison de baignade, donc juillet-août. Donc tous les 15 jours, il y a un prélèvement d'eau, de qualité d'eau. Et on en fait 1 3 semaines avant pour s'assurer que le plan d'eau ou la rivière avant la saison, est prête pour accueillir la baignade.
On s'est rendu compte qu'il y avait aussi plein de points d'accès à l'eau où des baigneurs venaient, en un peu moins grand nombre que sur ces points de baignade officiels, mais où il y avait peut-être besoin de proposer un suivi complémentaire aux communes, ou au moins déjà de proposer aux communes de connaître la qualité de l'eau entre le 14 juillet et le 15 août pour être sûr qu'on ne les fasse pas se baigner dans un endroit où il y a vraiment une pollution bactériologique importante. Donc cette année, à l'EPAGE Vior, on a proposé pour une quinzaine de points complémentaires aux communes intéressées, de faire un suivi sur des lacs, sur le Vior, mais aussi dans des petits cours d'eau comme le Lézère à Sauveterre, où il y a toute une base de loisirs, il y a une piscine, il y a un terrain de foot, il y a une grande zone de pique-nique avec le Lézère qui serpente.
Les Pages Vior travaillent aussi avec les syndicats mixtes d'eau potable qui sont, rappelons-le, membres de l'EPAGE Vior.
Avec l'EPAGE, on a essentiellement des relations au niveau de la communication, donc qui nous a accompagnés sur la création de supports de communication destinés au grand public, notamment un grand panneau d'affichage qui est placé à l'usine de l'Espinassol, l'usine de traitement. C'est un panneau qui présente les différents usages de l'eau et également le process de traitement de l'eau, toutes les différentes étapes. Et ensuite, il y a aussi un panneau, il me semble, au seuil de la motte, qui présente la passe à poissons.
C'est ça.
Voilà. Et après, avec eux, on a organisé, c'était en 2024, les journées Éduco, qui étaient destinées au grand public, et c'était surtout pour sensibiliser à l'économie d'eau.
C'est Charlotte Campredon, la directrice du syndicat mixte d'eau potable du Vior, que vous venez d'entendre. Son collègue, Nicolas Mar, responsable de production, nous explique où se trouve la prise d'eau qui va permettre d'alimenter leur station de production qui est située à l'Espinassol sur la commune de Crespin.
La prise d'eau du syndicat s'effectue sur la chaussée du Moulin de la Roque qui se situe sur la commune de Crespin à 5 km en aval du barrage de Turiès. On va rechercher tout ce qui est pesticides, nitrites, nitrates qui sont présents dans l'eau potable. Nous, on a un petit volet aussi qui est concernant la turbidité suite aux orages, toutes ces matières qui sont déversées dans la rivière et qui pour nous aussi posent problème en tant que traiteur d'eau. On a la problématique de la température sur le Vior. On a une température assez élevée du fait justement que l'eau reste un petit peu dans le barrage en amont et après aussi sur notre prise d'eau qui est une chaussée. Du coup, là, on a une problématique de montée en température un petit peu d'eau, qui après est plus difficile à traiter. Notre organisme de contrôle, nous, c'est essentiellement l'ARS qui met en place des campagnes de mesures autant sur l'eau brute et sur l'eau traitée. Sur l'eau brute, c'est essentiellement pour voir les micropolluants, tout ce qui est d'origine humaine, tout ce qui peut engendrer une dégradation de la qualité. Et après, il y a une partie sur l'eau après traitement, sur l'abonné, où il y a aussi une campagne de mesures qui sont effectuées tout au long de l'année. On a pu constater au fil des dernières années quand même une amélioration au niveau de la qualité d'eau. Les collectivités ont fait quand même d'énormes progrès et même ont traité carrément les points noirs qu'ils avaient, c'est-à-dire les villages qui étaient vraiment en bordure de Vior, ont quand même dans les 15 dernières années ont été traités. Avant, c'est vrai qu'il y a une vingtaine d'années, les fosses septiques, où il n'y avait peut-être pas de fosses septiques, étaient directement raccordées au Vior. Tout ça, maintenant, quand même, c'est des choses qu'on ne voit plus.
Retrouvons Jean-Michel sur l'impact de l'assainissement pour améliorer la qualité générale de l'eau.
Il y a une énorme pression, une très grosse pression due au rejet de l'assainissement collectif. Le réseau, ce qu'on appelle communément le tout à l'égout. Vous avez un village, vous avez une centaine d'habitations connectées à un même tuyau. Donc, on concentre les effluents. Donc là, jusqu'à il y a encore une trentaine d'années, il y avait un rejet direct au cours d'eau derrière, et puis ça partait comme ça. On consomme de plus en plus d'eau, on utilise de plus en plus de produits, on s'est rendu compte que tout ça, ça polluait, donc la plupart des réseaux d'assainissement aujourd'hui sont équipés d'une station d'épuration, il y a plusieurs filières, et ces stations traitent l'eau et les rejettent dans le cours d'eau. Donc, quand les eaux sont traitées et rejetées dans le cours d'eau, normalement, elles rentrent dans des normes. Toutefois, il y a encore des matières azotées à l'intérieur, et il y a de la bactério dedans. Donc, croire qu'on peut se baigner en sortie d'une station d'épuration, c'est un doux rêve. Effectivement, vous n'allez pas vous intoxiquer directement, mais vous risquez quand même, si vous ingérez l'eau, de tomber malade. Donc, il faut faire attention. Il y a aussi toute la pression de l'assainissement non collectif ou de l'assainissement individuel. Toutes ces maisons qui ne sont pas reliées à un réseau doivent être équipées d'un système d'assainissement normalement conforme à la réglementation pour diminuer l'impact. À l'échelle de l'EPAGE Vior, on a réussi à négocier dans notre dernier contrat de rivière, dans notre troisième contrat de rivière, un financement pour la réhabilitation des systèmes d'assainissement situés en amont de zones qu'on a considérées comme prioritaires, c'est-à-dire les zones de baignade sur le Vior. En tout, c'est 470 installations qui vont pouvoir bénéficier d'une aide à la réhabilitation de l'assainissement non collectif. Le territoire correspond à peu près au périmètre de protection de captage de l'eau potable. L'industrie peut avoir un impact aussi sur la qualité du milieu et la qualité des eaux. On a un des leaders des semenciers mondiaux sur Seignac, qui est vraiment en tête de bassin de la Nose. Après, on a quelques entreprises de la restauration collective, quelques grosses boucheries, charcuteries, ce genre d'entreprises-là. On a aussi, après, tout ce qui pourrait être identifié comme les zones artisanales et commerciales, où là, ben, qu'est-ce qu'on va faire de l'eau du parking qui va passer devant le garagiste et puis qui va passer après devant le peintre en bâtiment? Est-ce qu'il a bien traité ses eaux? Est-ce qu'il n'a pas envoyé des choses au réseau? Ça, c'est des choses qu'on ne connaît pas forcément et qu'il faudrait aussi regarder de plus près. Pas pour les embêter, mais pour essayer d'installer un système simple derrière pour limiter l'impact de ces rejets sur le cours d'eau. Le changement climatique aujourd'hui, il est à l'œuvre, on le voit tous. Il tombe à peu près la même quantité d'eau chaque année, sauf qu'aujourd'hui, elle tombe sur des périodes bien plus réduites. Donc quand il pleut beaucoup, ça n'a pas le temps de s'infiltrer, ça rince et tout part au cours d'eau. Donc c'est d'autant plus important de vérifier qu'il ne parte pas n'importe quoi au cours d'eau. La rivière, elle s'auto-épure. Ça veut dire que, de toute façon, sur une journée complète de temps de transfert de votre rivière, c'est-à-dire quand votre goutte d'eau elle aura transité pendant une journée dans la rivière, le taux de bactéries se sera déjà grandement abattu. Voilà, tout seul, c'est normal, la vie de la bactérie. Et puis comme elle va vieillir, elle va mourir, et puis elle va moins se reproduire, puisqu'elle aura moins d'apport dans l'eau, parce que ce sera éloigné de la source d'arrivée de son nutriment. Donc naturellement, le taux de bactéries s'abat. C'est pareil pour tout ce qui est matière organique, et même, j'ai envie de dire, nitrates et phosphates, ils vont être consommés par la vie aquatique. Les algues, les plantes aquatiques, les bactéries vont les consommer et les dégrader. Il y a un aspect dilution aussi. Vous avez des sources, des cours d'eau qui, eux, ne sont pas impactés, qui vont agrandir la rivière. Donc tout ça fait en sorte que, normalement, à l'aval d'un cours d'eau, on a moins de pollution directe qu'en amont, ou en tout cas au niveau du rejet. La rivière, elle est forte, elle a été résiliente longtemps. Aujourd'hui, on a le changement climatique qui ne nous aide pas du tout. Après, heureusement, on travaille vachement avec les agriculteurs. Les communes se sont bien organisées pour améliorer la qualité de l'assainissement collectif. Nous, on travaille aussi beaucoup en lien pour l'assainissement non collectif. Donc aujourd'hui, si on regarde tout le travail qu'on fait, clairement, on peut aller que dans une amélioration, et une amélioration importante du cours d'eau. Ce qui joue contre nous aujourd'hui, c'est le temps et c'est le climat. Je trouve que ce qui est important quand même, c'est vraiment que tout le travail qui est fait maintenant depuis des décennies par les pâchevures aujourd'hui pour ces fruits, on le voit quand on travaille bien sur un sous-bassin versant, on a des qualités qui s'améliorent, on a de la vie dans le cours d'eau, on a des taux de polluants qui baissent. Mais clairement aujourd'hui, aujourd'hui c'est une course contre la montre, il y a quelque chose qui arrive derrière. Alors, il n'y a pas que nos petites actions du quotidien là, qui doivent être faites, il doit y avoir des grandes orientations prises par nos dirigeants. Et je pense qu'il y a vraiment des choses qui devraient se jouer au niveau des États pour lutter contre ça, et pas dire on va essayer de gagner un degré à la manière dont ça avance. Alors aujourd'hui on se bat pour la qualité de l'eau, demain il faudra juste se battre pour avoir un peu d'eau dans nos rivières.
C'était Eau Vior, épisode 7, qualité et usage de l'eau. Une série proposée par Les Pages Vior, production Partage de Voix, réalisation Sophie Pillot, Agnès Maton, musique Basile Mandigral. Retrouvez toute la série sur le site de Les Pages Vior et vos plateformes de podcast habituelles. Si vous venez par ici, prévoyez une randonnée sur les bords du Vior. Vous y retrouverez des panneaux explicatifs et un lien vers notre série de podcasts.